Chapitre 4. Il fut bientôt convenu qu'Henriette Smith aurait les grandes entrées à Hartfield. Emma, vive et décidée, ne perdit pas de temps. Elle l'invita, l'encouragea et la pressa d'y venir très souvent, et plus elles se virent, plus leur satisfaction mutuelle en augmenta. Emma voyait depuis longtemps combien Henriette lui serait utile pour la promenade. Elle avait vivement senti la perte de Madame Weston à ce sujet. Son père ne dépassait jamais le verger, où l'on avait fait deux marques pour faire sa grande et sa petite promenade suivant la saison. Et depuis le mariage de Madame Weston, elle avait été trop sédentaire. Elle s'était hasardée d'aller une fois seule à Randalls. Elle y prit peu de plaisir. Mais d'avoir une Henriette à ses ordres pour l'accompagner à la promenade, c'était une grande addition à ses récréations. Henriette n'était certainement pas instruite, mais elle était douce, docile et reconnaissante, nullement capricieuse et n'avait d'autre désir que de se laisser guider par une personne qu'elle reconnaissait lui être très supérieure. Emma trouvait très aimable qu'elle se fût si tôt attachée à elle, et ce goût qu'elle avait pour la bonne compagnie était une preuve de son bon sens, quoique ses connaissances fussent très bornées. Enfin, elle était persuadée qu'Henriette Smith était la jeune amie qu'il lui fallait exactement, ce quelque chose qui lui manquait à la maison. Une amie telle que Madame Weston, c'était impossible. On ne pouvait pas espérer d'en trouver deux comme elle, et elle n'en avait pas besoin. C'était tout autre chose, un sentiment distinct et indépendant. Madame Weston était l'objet d'une considération basée sur l'estime et la reconnaissance. Emma serait aimée par une personne à qui elle voulait faire du bien. Elle ne pouvait être d'aucune utilité à Madame Weston, mais elle était à même de faire beaucoup pour Henriette. Le premier service qu'elle voulut lui rendre fut de découvrir ses parents. Mais Henriette elle-même ne savait à qui elle appartenait. En toute occasion, elle était prête à tout dire. Mais sur ce sujet, il était inutile de lui faire des questions. Emma ne put que faire des conjectures. Mais elle crut qu'en pareil cas, elle aurait découvert la vérité. Henriette n'avait pas de pénétration, elle s'en était rapportée à ce que lui avait dit Madame Godard et ne chercha pas à en apprendre davantage. Madame Godard, les gouvernantes et les écolières, ainsi que ceux qui regardaient la maison, faisaient le sujet de ses conversations. Et sans la connaissance des Martins de l'abbaye de Mille Farms, elle n'en aurait pas eu d'autre. Mais ses pensées se portaient souvent vers les demoiselles Martin. Elle avait passé deux mois avec elle, et elle se plaisait à en parler souvent, à raconter combien elle y avait été heureuse, et à faire la description de leur habitation et des merveilles qu'on y voyait. Emma l'encourageait à causer, amusée par la peinture qu'elle faisait, d'une espèce particulière de personne qu'elle ne connaissait pas, et jouissant de sa simplicité, qui lui faisait dire avec emphase que les Martins avaient deux salons, dont l'un était aussi grand que la salle de compagnie de Madame Godard, qu'ils avaient une femme de charge qui était depuis 25 ans dans la maison, 8 vaches, dont 2 étaient d'Alderney et une autre du Pays de Galles, une jolie petite vache galloise, et que Madame Martin avait dit que, puisqu'elle lui plaisait tant, on l'appellerait « sa vache ». De plus, un belvédère dans le jardin où il devait prendre le thé un jour de l'année prochaine, un très joli belvédère qui pouvait contenir une douzaine de personnes. Pendant quelque temps, Emma s'amusa de son babil sans penser à autre chose. Mais à mesure qu'elle connut mieux la famille, il lui vint d'autres idées. Elle en avait une fausse en s'imaginant que la famille était composée de Madame Martin, d'une fille, d'un fils et de sa femme, vivant tous ensemble. Mais lorsqu'elle apprit que M. Martin, qui jouait un rôle dans le récit que faisait Henriette et dont elle parlait avec éloge, était garçon, qu'il n'y avait pas de jeune Madame Martin, elle soupçonna que sa jeune amie paierait chèrement l'hospitalité et les faveurs que cette famille lui avait prodiguées. Elle craignit que si on n'y apportait pas de remède, Henriette ne fût perdue pour jamais. D'après ses nouvelles idées, elle redoubla ses questions, surtout à l'égard de Martin, et Henriette ne se fit pas prier. Elle dit naïvement la part qu'elle avait prise à leur promenade au clair de la lune, ainsi qu'à leur jeu, et s'étendit beaucoup sur le bon naturel de M. Martin, dont elle vanta les qualités et la bonne humeur. Il avait couru un jour 3 milles pour lui chercher des noisettes parce qu'elle avait dit qu'elle les aimait beaucoup. Il était en tout d'une obligeance extrême. Il avait fait entrer un soir le fils de son berger dans le salon pour le faire chanter. Elle aimait beaucoup les chansons. Il chantait un peu lui-même. Elle le croyait très instruit et connaisseur en toutes choses. Il avait un très beau troupeau et lorsqu'elle était chez lui, on lui avait offert pour ses laines plus qu'on en offrait aux autres fermiers. Elle était bien sûre que tout le monde disait du bien de lui. Sa mère et ses sœurs l'aimaient beaucoup. Madame Martin lui dit un jour, elle ne put s'empêcher de rougir, qu'il n'existait pas un meilleur fils que lui et qu'elle était certaine qu'il serait un très bon mari, que cependant elle ne désirait pas qu'il se mariât encore, qu'elle n'était pas pressée. « Fort bien, Madame Martin, se dit Emma à elle-même, vous entendez fort bien vos affaires. » Et lorsqu'elle quitta la maison, Madame Martin envoya une belle oie à Madame Godard, une oie superbe, la plus belle que Madame Godard eût jamais vue. Madame Godard la fit cuire pour le dimanche suivant et invita les 3 gouvernantes à souper avec elle, savoir Mademoiselle Nash, Prince et Richardson. Je suppose que M. Martin n'a pas d'instruction, qu'il ne connaît que ses affaires. Il ne lit sans doute pas. Oh, pardonnez-moi, c'est-à-dire non. Je n'en sais rien, mais je crois qu'il a beaucoup lu. Il lit des rapports sur l'agriculture et quelques autres livres qui sont déposés dans un des sièges qui sont au bas des fenêtres. Mais il les lit tout bas. Il lui arriva cependant, un soir, avant notre partie de cartes, de nous lire tout haut un passage des extraits élégants. C'était fort amusant, et je sais qu'il a lu Le Vicaire de Wakefield. Il ne connaît pas le roman de la forêt, ni celui des enfants de l'abbaye. Il n'en avait même jamais entendu parler avant mon arrivée, mais il est déterminé à se les procurer aussitôt qu'il le pourra. La question suivante fut « Quelle espèce d'homme est M. Martin ?»« Oh, il n'est pas beau, pas beau du tout. D'abord, je l'ai trouvé laid, mais maintenant, je le trouve mieux. Vous savez que cela arrive toujours. Mais ne l'avez-vous jamais vu ? Il va souvent à Highbury. Il le traverse toutes les semaines pour aller à Kingston. Il a passé devant vous plusieurs fois. C'est possible, et je puis l'avoir vu 50 fois sans le connaître. Un jeune fermier, à pied ou à cheval, est le dernier homme qui puisse exciter ma curiosité. Les riches paysans sont justement les gens avec qui je sens que je ne puis rien avoir à faire. Un degré ou deux au-dessous d'eux, avec une bonne apparence, pourrait m'intéresser. J'aurais lieu d'espérer d'être utile à leur famille, d'une manière ou d'une autre. Mais un riche paysan n'a nul besoin de moi, et dans un sens, il est autant au-dessus de moi qu'il est au-dessous dans un autre. Oh oui, certainement, il n'est pas probable que vous l'ayez observé. Mais il vous connaît bien, je veux dire, de vue. Je ne doute pas qu'il soit un très honnête garçon. Je sais même qu'il l'est, et comme tel, je lui souhaite toutes sortes de bonheur. Quel âge croyez-vous qu'il ait ? Il a eu 24 ans le 8 de juin, et le jour de ma naissance tombe le 23. Au juste, 16 jours de différence, ce qui est très extraordinaire. Il n'a que 24 ans, il est trop jeune pour se marier. Sa mère a grandement raison de dire qu'elle n'est pas pressée. Il paraît qu'ils vivent fort bien tous ensemble et si elle cherchait à le marier, elle s'en repentirait certainement. Dans 6 ans, s'il trouve une jeune femme agréable, de son rang, qui ait un peu d'argent, alors il pourra se marier. Dans 6 ans, ma chère demoiselle Woodhouse, il aurait 30 ans. Fort bien. Et ce n'est qu'à cet âge-là que la plupart des hommes sont en état de se marier, ceux surtout qui ne sont pas nés avec une fortune indépendante. Je m'imagine que M. Martin a encore la sienne à faire. Il ne peut pas avoir mis grand-chose de côté. Quelque argent qu'il ait reçu à la mort de son père, quelque part qu'il ait dans la propriété de la maison, tout est employé, j'en suis sûr, en bestiaux, provisions, etc. Et quoiqu'avec beaucoup d'application et de bonheur, il puisse un jour devenir riche, il est presque impossible qu'il ait encore rien réalisé. Cela est très vrai, mais ils vivent fort bien. Ils n'ont pas de domestique mâle dans la maison. Autrement, ils ne manquent de rien. Et Madame Martin dit que l'année prochaine, elle prendra un jockey. « Je désire que vous ne vous mettiez pas dans un grand embarras, Henriette, lorsqu'il se mariera. Je veux dire, en faisant la connaissance de sa femme. Car, quoique vous puissiez continuer à voir ses sœurs, à cause de l'éducation qu'elles ont reçue, il ne s'ensuit pas qu'il épouse une femme digne de votre société. Le malheur de votre naissance doit vous faire prendre un soin particulier dans le choix de vos connaissances. Il n'y a pas de doute que vous ne soyez la fille d'un homme comme il faut, et vous devez faire tous vos efforts pour vous rendre digne du rang qu'il occupe dans le monde, où vous rencontrerez beaucoup de gens qui se feraient un plaisir de vous mortifier. » « Oh, certainement, il y en a beaucoup. Mais tant que je serai admise à Hartfield, et vous avez tant de bonté pour moi, mademoiselle Woodhouse, je ne craindrai pas ce qu'on pourrait dire de moi. » « Vous comprenez tout le pouvoir de l'influence, Henriette, mais je voudrais que vous fussiez si bien établie dans la bonne société que tous puissiez être indépendantes d'Hartfield et de mademoiselle Woodhouse. Je désire que vous voyiez une bonne société, et pour y parvenir, il est nécessaire que vous ne gardiez qu'un très petit nombre de vos anciennes connaissances. Et je dis que si vous étiez encore dans ce pays lorsque M. Martin se mariera, je désire que vous ne soyez pas entraînée, par l'intimité qui existe entre vous et ses sœurs, à vous lier avec sa femme, qui ne saurait être que la fille d'un fermier, sans aucune éducation. » Certainement, oui. Je ne crois pas cependant que M. Martin épouse une personne sans éducation et mal élevée. Mais je ne prétends point préférer mon opinion à la vôtre, et je ne désire aucunement faire connaissance avec sa femme. Je ferai toujours un très grand cas des demoiselles Martin, particulièrement d'Élisabeth, et je serai très fâchée de ne plus les voir, car elles sont tout aussi bien élevées que moi. Mais s'il épousait une femme ignorante et grossière, je ne la verrais pas si je pouvais m'en dispenser. » Emma l'épiait attentivement pendant ce discours et ne vit point de symptômes d'amour qui pussent l'alarmer. Ce jeune homme avait été son premier admirateur, mais elle croyait qu'il n'avait pas jeté de profondes racines et qu'Henriette ne s'opposerait pas aux arrangements qu'elle voulait prendre en sa faveur. Elles rencontrèrent M. Martin le lendemain, étant à la promenade sur le chemin de Donwell. Il était à pied, et après avoir très respectueusement salué Emma, il regarda sa compagne avec une satisfaction qu'il ne se donna pas la peine de déguiser. Emma ne fut pas fâchée d'avoir cette occasion de faire ses remarques. Et avançant de quelques pas, tandis qu'ils causaient ensemble, ses yeux perçants surent bientôt l'apprécier. Il était proprement mis, avait un air sentimental. Mais sa personne n'avait rien qu'il recommandât, et en le comparant à un jeune homme comme il faut, elle pensa qu'il perdrait beaucoup des progrès qu'il avait pu faire dans le cœur d'Henriette. Henriette n'était pas insensible aux belles manières. Elle avait remarqué avec attention celles de son père, en avait été surprise et enchantée. M. Martin ne savait pas ce que c'était que les belles manières. Ils ne restèrent pas longtemps ensemble, parce qu'on ne pouvait pas faire attendre mademoiselle Woodhouse, et Henriette courut après elle, en souriant, et dans une agitation qu'Emma espéra faire promptement cesser. Que penser de cette rencontre? Quelle est surprenante! C'est un pur hasard, m'a-t-il dit, qu'il n'ait pas fait le tour de Randalls. Il ne croyait pas que nous nous promenassions jamais sur cette route-ci. Il pensait que c'était toujours sur celle de Randalls. Il n'a pas encore pu se procurer le roman de la forêt. Il a eu tant d'affaires la dernière fois qu'il est allé à Kingston qu'il n'a pas pu se le procurer. Mais il y retournera demain. Il est extraordinaire que nous l'ayons rencontré. Eh bien, mademoiselle Woodhouse, le trouvez-vous tel que vous le supposiez? Qu'en pensez-vous? Le trouvez-vous si laid? Il est laid sans doute, très laid, mais ce n'est rien en comparaison de son manque d'usage. Je ne devais pas m'attendre à grand-chose, il est vrai, et je n'ai pas été trompée. Cependant, j'avoue que je ne lui croyais pas un air si grossier, une si mauvaise tournure, et je pensais qu'il devait être mieux. « Certainement, dit Henriette un peu mortifiée, il n'a pas l'air d'un gentilhomme. » « Je pense, Henriette, que depuis notre connaissance, vous avez vu très souvent de véritables gentilshommes, et vous vous serez sans doute aperçu de la différence qui existe entre eux et M. Martin. À Hartfield, vous avez vu plusieurs modèles de jeunes gens bien élevés. Je serais surprise qu'après les avoir vus, vous puissiez vous trouver dans la compagnie de M. Martin sans vous apercevoir qu'il est de 100 piques au-dessous d'eux. Vous devriez vous étonner vous-même d'avoir rien trouvé d'agréable en lui. Ne commencez-vous pas à vous en apercevoir à présent ? N'en êtes-vous pas frappé ? Je suis très convaincue que vous avez dû être choqué de son air gauche, de ses manières brusques, de sa voix rauque, dont les accents grossiers m'ont frappé, quoique je fusse éloignée de lui lorsqu'il vous parlait. Certainement, il ne ressemble pas à M. Knightley, il n'a pas la prestance et la manière de marcher de M. Knightley. Je n'ai pas de peine à m'apercevoir de la différence qui existe entre eux. Mais M. Knightley est un homme si accompli. M. Knightley a si bonne tournure qu'on ne peut établir aucune comparaison entre lui et M. Martin. Peu d'hommes, peut-être pas 1 sur 100, n'annoncent à la première vue, comme M. Knightley, la présence d'un homme comme il faut. Mais il n'est pas le seul que nous ayons vu dernièrement à Hartfield. Que pensez-vous de messieurs Weston et Elton? Comparez M. Martin à l'un ou l'autre des deux. Comparez leur manière de se présenter, de marcher, de parler, de garder le silence, et vous devez sentir la différence qui existe entre eux. Oh oui, il y en a une grande! Mais M. Weston est presque un vieillard. M. Weston doit avoir de 40 à 50 ans. C'est ce qui donne plus de prix à ses belles manières. Plus une personne est avancée en âge, Henriette, plus il lui importe que ses manières ne soient pas mauvaises. Car alors, la grossièreté, le ton bruyant, l'élévation de la voix, etc., sont plus apparents et plus désagréables. Ce qui est passable dans la jeunesse est détestable dans un âge avancé. M. Martin est maintenant gauche et brusque, et que sera-t-il à l'âge de M. Weston ? En vérité, on ne saurait le deviner, dit Henriette d'un air assez grave. Il me semble que cela n'est pourtant pas très difficile. Il deviendra un véritable fermier, lourd et grossier, inattentif aux apparences et ne pensant qu'aux profits et aux pertes qu'il peut faire. En vérité, cela serait très mal. On voit clairement jusqu'à quel point il est uniquement occupé de ses affaires, puisqu'il a oublié de demander le livre que vous lui aviez recommandé d'apporter. Il était trop attentif à ses marchés pour penser à autre chose. C'est justement la conduite que doit tenir un homme qui veut s'enrichir. Qu'a-t-il besoin de livres ? Je ne doute nullement qu'il ne fasse bien ses affaires et qu'il ne devienne riche avec le temps. Au reste, qu'il soit illettré et grossier, qu'est-ce que cela nous fait ? Je m'étonne qu'il ait oublié le livre, fut la seule réponse que fit Henriette d'un air piqué. Emma crut devoir la livrer elle-même et cessa de parler. Peu après, elle recommença ainsi. À quelques égards, peut-être, les manières de M. Elton sont supérieures à celles de M. Knightley ou de M. Weston. Il a plus de douceur dans le caractère. On pourrait les donner pour exemple. Chez M. Weston, on trouve une franchise, une vivacité, une brusquerie même, que tout le monde aime en lui, parce que tout cela est accompagné d'une grande gaieté. Mais on ne pourrait pas l'imiter. On passe à M. Knightley ses manières décidées et son ton impératif. Sa figure, son regard, le rang qu'il occupe, semblent le lui permettre. Mais si un jeune homme s'avisait de l'imiter, il se rendrait insupportable. Je crois qu'un jeune homme, au contraire, pourrait fort bien prendre M. Elton pour modèle. M. Elton a l'humeur douce et gaie, obligeant et bien né. Il me semble que depuis quelque temps, sa douceur naturelle s'est encore augmentée. Je croirais qu'il a l'intention de gagner les bonnes grâces de l'une de nous deux, Henriette, par cette douceur additionnelle. Il me semble que ses manières sont encore plus douces qu'à l'ordinaire. Si telle est son intention, c'est sans doute à vous qu'il en veut. Ne vous ai-je pas fait part de ce qu'il disait de vous l'autre jour ? Elle répéta alors les louanges passionnées qu'elle avait tirées de M. Elton au sujet d'Henriette, louanges qu'elle reconnaissait justes. Et Henriette rougit et dit avec un sourire qu'elle avait toujours cru M. Elton un jeune homme infiniment agréable. M. Elton était la personne qu'Emma avait choisie pour chasser M. Martin de la tête d'Henriette. Elle crut que ce serait un excellent mariage pour tous les deux, et que, comme la chose était si claire, si naturelle et si probable, elle n'aurait pas grand mérite d'en avoir formé le plan. Elle craignait que tout le monde, pensant comme elle, n'en prédit le succès. Cependant, il n'était guère possible que personne n'y eût pensé avant elle, car il était entré dans sa tête la première fois qu'Henriette était venue à Hartfield. Plus elle y pensait, et plus elle reconnaissait qu'il devait avoir lieu. La situation de M. Elton était convenable. Bien né, sans alliance vulgaire, et en même temps d'une famille qui n'avait pas le droit de trouver à redire à la naissance douteuse d'Henriette. Il pouvait mettre à sa disposition une bonne maison, et Emma pensait qu'il jouissait d'un honnête revenu. Car, quoique la cure d'Highbury ne fût pas considérable, on savait qu'il avait des propriétés. Elle le regardait comme un jeune homme respectable, bien intentionné, d'une humeur douce, qui ne manquait pas de jugement et qui connaissait le monde. Elle était déjà convaincue qu'il trouvait qu'Henriette était une très jolie fille, ce qu'elle regardait comme suffisant avec leurs fréquentes rencontres d'Hartfield. Et quant à Henriette, l'idée seule d'être préférée par lui en porterait la balance. C'était véritablement un jeune homme fait pour plaire, un jeune homme que toute femme qui ne serait pas délicate à l'excès pouvait aimer. Il passait pour un très bel homme. On admirait sa personne, excepté Emma, à cause qu'il n'avait pas cette élégance dans les traits qu'elle exigeait. Mais une fille qui pouvait savoir gré à un Robert Martin de galoper pour lui chercher des noisettes pouvait être aisément conquise par l'admiration que M. Elton aurait pour elle.